doit-on mettre autour de son buste ? Louis le Grand ? Louis le Juste ? Qu'un titre nouveau le décore, qu'il soit Louis le Bien-Aimé. Anonyme, 1744.
Mille ans d'histoire. Pendant 59 ans, il a régné sur la plus grande puissance du monde. C'était l'époque où Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau faisaient de Paris la capitale des Lumières, pendant que Dupleix aux Indes, Bougainville à Tahiti et Kerguelen en Antarctique repoussaient les limites d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait pas. C'était le pays de Watteau, de Fragonard, de Chardin, de Gabriel, de Jussieu, de Buffon et de Lavoisier, imposant ses sciences, son art, sa langue et la force des armées du maréchal de Saxe à tous les princes d'Europe. Une France de 20 millions d'habitants, riche et prospère, un héritage immense, légué en 1715 par Louis XIV à son arrière-petit-fils, un enfant de 5 ans, le futur Louis XV.
Mignon, vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez de vivre en paix avec vos voisins et de soulager vos peuples, ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait. Adieu, mon cher enfant.
François Bluche, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était un extrait du film L'Allée du Roi, Didier Sandre dans le rôle de Louis XIV, au moment donc de sa mort en 1715, qui transmettait la couronne à son arrière-petit-fils, qui était Louis XV, lui annonçant qu'il serait un grand roi. C'est pourtant pas l'idée qu'on se fait de Louis XV aujourd'hui. On pense plutôt à cette fameuse formule de Louis XV, montrant un peu son insouciance, « Après moi, le déluge ».
Vous savez, les opinions sur Louis XV ont beaucoup varié. Au début de son règne, il était adoré. À la fin de son règne, il est vilipendé. La Révolution n'arrange rien. Comme on ne peut pas le décapiter, on décapite Madame du Barry. Le XIXe siècle est terrible à son égard. Et puis tout a changé au XXe siècle. La réhabilitation a commencé avec mon maître et ami Pierre Gaxot, avec son siècle de Louis XV de 1933. Et maintenant, je crois que le moment est venu peut-être de tenter une synthèse équilibrée pour bien en juger.
Ce que vous faites dans votre livre, donc publié chez Perrin, Louis XV, qui vient de sortir. Alors, un roi, il faut le rappeler quand même, qui a mis beaucoup de temps à régner. Quand Louis XIV lui transmet le pouvoir à son arrière-petit-fils, hein, on l'oublie souvent, Louis XV a 5 ans. Et pendant des années, pendant très longtemps, la France sera gouvernée par le régent, hein, par Philippe d'Orléans, et puis pendant 20 ans encore par le cardinal de Fleury. Louis XV ne se mêle pas du tout de politique à ce moment-là.
Oui, mais le régent qui a été beaucoup trop noirci par l'historiographie a joué un rôle tout à fait heureux en ce qui concerne la passation des pouvoirs. Mmh. Il a protégé le jeune roi, son neveu. Il l'a fait entrer au conseil dès l'âge de 10 ans. Il l'a initié progressivement aux affaires. Et il a eu un rôle, je crois, très positif. On ne peut pas en dire autant du cardinal Fleury, qui a profité, qui a encouragé chez son pupil une certaine indolence, une certaine indifférence, parce qu'au fond, il avait envie, lui, Fleury, de gouverner.
L'état de la France, François Bluche, à l'époque, on oublie toujours que c'était une très grande puissance.
Ah ben, d'abord, c'est une très grande puissance. Et ensuite, avec ses 25 millions d'habitants, elle est en tête de l'Europe sur le plan démographique, avec le rayonnement étonnant des arts et des lettres sous Louis XIV, eh bien, elle continue de rayonner. Et alors, les manuels vous disent la France est appauvrie parce que la guerre de succession d'Espagne dure trop longtemps, c'est abominable. Et les manuels vous disent ensuite que l'argent sort de toutes les lessiveuses pour financer le système de l'AS. Alors, ça prouve bien que si on réfléchissait un peu, on noircirait un petit peu moins le début et on glorifierait un petit peu moins la suite et on arriverait à une position moyenne.
Alors un immense empire, hein, les Indes, le Canada, des problèmes internes hein, quand même dont il va hériter de son arrière-grand-père, de Louis XIV, et puis aussi qu'on retrouvera sous le régent, sous Fleury, c'était un problème religieux qui est assez dur, la querelle des jansénistes, pour peut-être la rappeler en quoi ça consistait.
Attendez, un empire qui n'est pas tout à fait un empire puisqu'il n'y a pas cette volonté impériale qu'on a trouvée sous la Troisième République. Mmh. Le Canada, par exemple, dépend du ministère de la Marine, est une colonie de la couronne. Les Indes dépendent du contrôleur général et sont régies par une compagnie privée. Donc il n'y a pas du tout ce système qu'on trouvera au 19e et au 20e siècle. Il n'y a pas de colonialisme.
Le problème religieux, il faut peut-être le comprendre parce que ça, il va empoisonner même le règne de Louis XV.
Le problème religieux est très compliqué et ça, c'est une erreur de Louis XIV. Louis XIV, pour des raisons politiques plus que religieuses, a obtenu du pape une bulle qui condamnait presque définitivement le jansénisme. Et cette bulle qui a été bâclée, et pour laquelle Jean-Paul II aurait dû demander la repentance, cette bulle a empoisonné l'histoire de France pendant 100 ans.
Qu'est-ce qui empoisonnait ? Pourquoi le jansénisme empoisonnait Louis XIV ?
Le jansénisme empoisonnait Louis XIV parce que le jansénisme prônait la liberté individuelle, la réflexion individuelle, avait ressemblé un petit peu au protestantisme dans une manière de libre examen, voyez. Alors c'est ça. Et puis le jansénisme condamnait l'usage abusif de la raison d'État. Et par exemple, ne voulait pas qu'on soit allié avec les musulmans de Constantinople, ne voulait pas qu'on soit allié avec les princes protestants d'Allemagne. Il avait la position des dévots et une tendance un petit peu trop favorable pour la maison d'Autriche.
Alors l'empire, ou tel qu'on peut l'appeler, les problèmes religieux, voilà la situation que trouve Louis XV quand il commence à exercer vraiment le pouvoir. Hein, il a déjà 33 ans, 1743, à la mort de Fleury. Et là, il est très populaire, c'est Louis le bien-aimé.
Rien ne l'aurait empêché de réaliser sa proclamation de 1726 et de gouverner dès 1726. Hein. Et s'il a attendu la mort de Fleury, c'est parce qu'il a accepté ce jeu de tout confier à son tuteur.
En tout cas, on l'aime beaucoup et c'est un sentiment qui va évidemment très vite évoluer. La revue de texte de Stéphanie Duncan.
Une chose est sûre, d'abord, Louis XV est beau. Lors de son sacre, raconte le marquis d'Argenson, il ressemblait à l'amour. Mais dans le regard de ses contemporains, Louis XV apparaît surtout comme quelqu'un de déconcertant, surtout pour ceux qui gardent le souvenir, bien sûr, du roi soleil. Voilà par exemple comment le décrit le duc de Luynes. Le roi est difficile à connaître, c'est un caractère caché, impénétrable dans son secret. On voit quelquefois qu'il a envie de parler, la timidité le retient et les expressions semblent se refuser. Le duc de Luynes est étonné par sa conversation aussi. Le détail des maladies, des opérations, ce qui regarde l'anatomie, les questions sur les lieux où l'on compte se faire enterrer, sont malheureusement ces conversations trop ordinaires, dit-il. Pourtant, reconnaît le duc de Luynes, ces moments d'humeur sont-ils passés, le caractère du roi est beaucoup d'aisance et de douceur dans la société. On est souvent tenté d'oublier qu'il est le maître. Un ambassadeur, le duc de Crouy, lui reconnaît aussi de grandes qualités. Le roi avait une mémoire, une présence et une justesse d'esprit unique. Il était doux, excellent père et parent et le plus honnête particulier du monde. Il était instruit dans les sciences, mais, ajoute le duc de Crouy, il ne lui manquait que d'oser décider par lui-même et de ne pas toujours par modestie tourner à la vie des autres. D'autant que ces autres sont souvent des dames. Son principal vice, affirme le duc de Crouy, fut les femmes. Il se laissa mener par elles, ce qui a fait le mauvais de son règne. Et le duc de Crouy le compare au terrible arrière-grand-père. Louis XIV fut trop fier et lui trop peu. Autre portrait de Louis XV, celui de Madame de Tencin, encore plus sévère puisqu'elle parle de sa manière de gouverner. Ce qui se passe dans son royaume paraît ne pas le regarder, dit-elle. Dans le conseil, il est d'une indifférence absolue. On voit qu'il y va pour la forme, comme il fait tout le reste. En vérité, il y a de quoi se désespérer d'avoir affaire à un tel homme. Madame de Campan, qui sera la future femme de chambre de Marie-Antoinette, dans ses mémoires truffées d'anecdotes assez rigolotes, est beaucoup plus irrespectueuse pour Louis XV. Le roi, dit-elle, était fort adroit à faire certaines petites choses futiles sur lesquelles l'attention ne s'arrête qu'aux fautes de mieux. Par exemple, il faisait très bien sauter le haut de la coque d'un œuf d'un seul coup de revers de sa fourchette. Aussi en mangeait-il toujours à son grand couvert. Et les badauds qui venaient le dimanche y assister retournaient chez eux, moins enchantés de la belle figure du roi que de l'adresse avec laquelle il ouvrait ses œufs.
Je vous ai vu opiner du chef François Bluch en écoutant ses textes, le portrait de Louis XV, mais c'est surprenant, c'est vraiment le contraire de Louis XIV. Un homme qui semble peu sûr de lui, un homme indécis, un homme influençable aussi. C'est étonnant, c'est pas l'idée qu'on se fait d'un roi en tout cas.
C'est pour ça que le jargon de l'historiographie courante et celle d'Emmanuel est tout à fait fâcheux avec cette invention du mot absolutisme qui date de 1796. Et Louis XV est tout le contraire d'un despote. À certains égards, c'est un roi fainéant, et à beaucoup d'égards, c'est un roi indécis. Et d'ailleurs,
timide, au fond, même, on entend.
Non timide, je suis pas d'accord avec lui. Mais par contre, je suis d'accord avec lui sur l'indélicatesse du roi. Il avait les faits à son berceau, et ensuite, il n'a pas su se discipliner lui-même. Il n'a pas su créer une sorte d'embrayage entre son intelligence et la nécessité de l'action royale. Tout le monde pense que quand il y avait quatre options, il pouvait les définir tout de suite. Tout le monde sait qu'il ne savait pas laquelle choisir.
En tout cas, François Bluch, il préférait, on a l'impression, se débarrasser des affaires de l'État sur ses ministres.
Monsieur Machaut d'Armouville et le comte d'Argenson demandent audience auprès du roi.
Faites entrer mes deux ministres.
Sire, certains problèmes se posent.
D'un intérêt très vif.
Et qui sont d'une extrême urgence.
Eh bien, résolvez-les, messieurs, à chacun son métier. Et franchement, je n'entends rien au vôtre. Et ne voyez dans mes paroles qu'un nouveau témoignage de ma confiance en vous. Vous avez de bien jolis yeux, mademoiselle.
Je les tiens à la disposition de votre majesté.
Attendez-moi.
J'ai 17 ans.
Oui. Vous pouvez attendre une heure.
C'était un extrait de Si Versailles m'était compté, Jean Marais dans le rôle de Louis XV, préférant à l'évidence s'occuper des dames plutôt que des affaires de l'État, François Bluch.
Sacha Guitry disait qu'il était monarchiste et il avait toutes sortes de princes sur sa table de travail. Mais dans ce fameux film, dans ce trop fameux film, il manie l'anachronisme et l'erreur historique avec maestria. En fait, Louis XV avait envie de déléguer, sentait le besoin de déléguer. Mais quand il avait des hommes de la qualité du comte d'Argenson et de Machaut d'Arnouville, c'était péché d'avoir fait comme ce fut le cas, de les renvoyer en 1757. Ouais. Il renvoie Machaut d'Arnouville, le seul homme qui pouvait prolonger la monarchie, lui redonner toute sa force en créant plus d'égalité fiscale et donc sociale.
Une réforme des impôts, le 20e, oui.
Et il se débarrasse de lui en lui écrivant dans la lettre de disgrâce qui n'a rien à lui reprocher. En écrivant à sa fille, je le renvoie, c'est mon meilleur ministre. C'est quand même extraordinaire. Et le plus extraordinaire, je tiens à le redire, c'est qu'il ait une réputation de despote. Pareil comportement.
En tout cas, un roi semble-t-il tout de même très, très influençable, notamment par les femmes. Hein, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché. Sa femme ne compte pour rien. Hein, Marie Leszczyńska, qui sera une reine de France tout juste bonne à lui donner des enfants, point. En revanche, les favorites, et il y en a des quantités, vont jouer un rôle, et notamment la plus connue, évidemment, Madame de Pompadour. Pendant 20 ans, on dit qu'elle faisait tout, hein, qu'elle s'occupait des affaires de l'État, qu'elle désignait à tous les postes.
En fait, elle ne gouvernait pas, mais comme elle jouait un rôle décisif pour le choix des hommes et pour leur disgrâce, car par exemple Machaut, elle a aidé à le choisir, elle a aidé à le disgracier, et tout à l'avenant. Bernice a été son poulain,
ministre des Affaires
et
étrangères.
Puis ensuite elle l'a fait renvoyer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je pense que Louis XV, n'ayant pas eu de mère, remplace sa mère, je fais de la psychanalyse d'amateur, remplace sa mère par ses maîtresses.
Par la marquise de Pompadour.
Si vous vous contentiez, madame, de rendre le roi fou de vous, l'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun courroux. Comprenez-vous, mais depuis quelque temps, marquise, vous voulez gouverner en tout. Laissez-moi dire avec franchise que ce n'est pas de notre goût. Comprenez-vous. vous nommiez deux éminences et des abbés tout votre sou, que vous régentiez les finances. Après tout, le soldat s'en fout. Comprenez-vous? Mais quand vous nommez pour la guerre certains généraux archi-fous, il est normal que le militaire vienne un peu vous chercher des poux. Comprenez-vous? Parce qu'un beau soir à Versailles, vous avez joué les touches à tout. Nous avons perdu la bataille et moi je n'ai plus qu'un genou. Comprenez-vous? Je ne suis pas méchant.
Vous écoutez France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui le règne de Louis XV.
Et vous venez d'entendre Comprenez-nous, les reproches de la tulipe, une chanson anonyme du XVIIIe siècle interprétée par Gabriel Yacoub. La complainte donc d'un soldat, François Bluche, reprochant à la marquise de Pompadour son rôle dans ce qu'on a le plus reproché à Louis XV, les guerres que Louis XIV lui déconseillait de faire et qu'il a faites. Il y en a eu deux qui ont été catastrophiques.
Oui, mais paradoxalement, c'est le cardinal Fleury, pacifique et presque pacifiste, qui a assumé les deux premières guerres, celle de succession de Pologne qui nous a valu à terme la Lorraine,
oui.
et celle de la succession d'Autriche, où alors, comme le disait déjà l'opinion à l'époque, la France a travaillé surtout pour le roi de Prusse.
Mmh. Alors, oui, il faut rappeler simplement, François Bluche, deux mots sur cette guerre de succession d'Autriche, parce que c'est une guerre assez curieuse. Elle a duré assez longtemps. L'empereur d'Autriche, Charles VI, meurt. Il lègue son pouvoir impérial à sa fille, Marie-Thérèse. Il y a une intervention du roi de Prusse, Frédéric II, qui s'empare de la Silésie. Et puis la France se bat contre l'Autriche. On ne sait pas très bien pour quelle raison, mais avec succès.
Oui, c'est-à-dire que Charles VI, empereur, ne peut pas léguer l'Empire, puisque l'Empire est déterminé par les électeurs germaniques. Oui. Il peut léguer les États héréditaires des Habsbourg. Et quant à l'Empire, eh bien, il y a d'autres candidats, et il y a en particulier l'électeur de Bavière qui est candidat et qui arrive à se faire élire empereur. Mmh. Tout ça est plus compliqué qu'on ne croit.
Alors, non, on ne peut pas entrer dans le détail de ces guerres. Ce que je voulais vous demander, François Bluche, il y a une chose étonnante.
Oui.
C'est l'occasion pour la France de remporter une grande victoire. Louis XV, d'ailleurs, y est mêlé puisqu'il est présent. C'est la victoire du maréchal de Saxe à Fontenoy en 1745. Or, la France peut alors imposer pratiquement sa volonté à l'Europe. Et là, Louis XV ne se bat absolument pour rien du tout. Il renonce à tout. Il se bat pour que le roi de Prusse, effectivement, garde la Silésie. Mais il rend les Pays-Bas, par exemple, que la France avait conquis. C'est curieux, cette espèce de victoire militaire, défaite diplomatique.
Mais oui, c'est le maréchal de Saxe n'était pas du tout d'accord avec lui, d'ailleurs. Il a fait dire par M. de Saint-Séverin, son plénipotentiaire, qu'il voulait se comporter en prince et non pas en marchand. Et il a fait ce que jamais Louis XIV n'a fait, parce que même Ryswick, qui a passé longtemps pour une paix blanche, nous a valu la confirmation de Strasbourg et celle de Saint-Domingue. Et je ne parle pas de Nimègue, qui a fait de la France le pays le plus puissant de l'Europe. Alors dans cette histoire de la guerre de succession d'Autriche, c'est tout à fait étrange, et ça confirme cette espèce d'abouli, cette espèce d'impossibilité pour Louis XV de conclure, décider et d'avoir une volonté et de s'y tenir.
Autre guerre, François Bluche, la guerre de 7 ans. Alors là, beaucoup plus grave. Hein. Nous battons cette fois-ci aux côtés de l'Autriche, mais contre l'Angleterre et la Prusse. Alors là, il y a une succession de défaites. Il y a Rosbach en 1757, la défaite du duc de Soubise, hein, qui a été un désastre. Et puis alors les défaites outre-mer, en Inde, et puis au Canada, Montcalm qui perd Québec, qui est d'ailleurs tué devant Québec, et le traité de Paris désastreux. La France perd ses colonies, perd le Canada.
Oui, ben enfin, la France perd le Canada parce qu'avec 70 000 colons au Canada contre 1 million et davantage dans les 13 colonies britanniques. La France perd le Canada parce qu'elle a une immense armée dans le Saint-Empire et qu'elle, comme très justement l'a fait remarquer Frédéric II de Prusse, on peut pas être à la fois le maître de l'Europe et le maître de l'océan. Mmh. Et enfin, la France perd le Canada parce qu'à la suite d'une politique de négligence accumulée depuis 1715, nous n'avons pas de marine de guerre capable de soutenir le choc contre les Anglais, contrairement à l'époque de Louis XIV. Et en 1759, date de la mort de Montcalm, l'année terrible, eh bien, aucun navire de guerre français n'est parvenu à traverser l'Atlantique. Mmh. Louis XV n'a pas perdu le Canada, le cœur joyeux, il l'a perdu dans la tristesse. Il faut quand même dire ça, parce que j'ai l'air d'accabler le roi
parce que vous rappelez, mais on l'a oublié, que Louis XV, c'est aussi l'acquisition de la Lorraine en 1766, l'acquisition de la Corse en 1768, et puis aussi des réformes importantes, une réforme ratée, l'impôt, qu'il voulait plus égalitaire, et puis aussi la mise au pas en 1771 du Parlement. Le Parlement de Paris qui se rebelle contre le roi depuis le début, eh bien Louis XV le met au pas et supprime ce qu'on appelle la vénalité des charges, c'est-à-dire que les parlementaires n'ont plus leur titre de magistrat de père en fils. Ça, c'est une réforme considérable qui aurait peut-être pu changer pour l'avenir.
Ah ben, il n'y a aucun doute. C'est vraiment la réforme du type modernité heureuse. Et Voltaire l'a très bien compris, qui, contrairement aux autres intellectuels de l'époque, a soutenu le roi. Mais l'erreur de Louis XV, et ni la gauche ni la droite n'en ont assez parlé en historiographie courante, c'est de ne pas avoir remplacé le Parlement par une autre formation.
Il faut rappeler que le Parlement n'est pas notre Parlement, c'est même pas le Parlement anglais, oui. C'est pas des élus, c'est des gens qui avaient leur charge de père en fils.
C'est ça. Et d'autre part, qui depuis 1715, remis en selle par le régent, et s'était de plus en plus faufilé, pour ne pas dire installé, dans le pouvoir législatif, et exercer ce pouvoir usurpé d'une façon systématiquement négative. Mmh. Seulement, il aurait fallu remplacer ça par une assemblée des notables ou par des états généraux pour que le peuple puisse s'exprimer.
Oui, il n'y aurait peut-être pas eu 1789. Alors, un pays aussi, c'est le bilan du règne de Louis XV n'est pas entièrement négatif, vous le rappelez, c'est aussi un pays qui rayonne dans le monde, un pays dont on admire les écrivains, les savants, les artistes, les architectes et les philosophes qui sont recherchés dans le monde entier.
Madame de Pompadour pose pour Fragonard, tandis que Monsieur de Voltaire blasphème en souriant. Et c'est ce tableau-là qu'il conviendrait de faire. J'aime bien les toiles qui représentent des batailles. Mais le tableau que je regarde en ce moment immortalise tout un siècle. Le génie, le talent, la beauté. Et cet accord entre les meubles et les couleurs, entre les étoffes et les mots, entre la forme et la pensée, c'est cela qui me trouble et m'émeut. Voltaire et Fragonard, l'ironie et la grâce, vertu incessible et insaisissable. Donc je dis bien, Voltaire et Fragonard, la France.
Alors François Bluche, c'est un autre extrait de Si Versailles m'était compté, c'est effectivement le règne de Louis XV, c'est Voltaire, c'est Fragonard, mais c'est aussi Rousseau, c'est aussi Diderot, c'est aussi Montesquieu. C'était un peu les germes de la Révolution quand même, si on ne prend que six philosophes, parce qu'il y a aussi les peintres, il y a les musiciens, il y a Rameau, mais c'est un règne éblouissant, et en même temps c'est la fin de la monarchie quasiment, on en est plus loin. On est quand Louis XV mourra, on sera à peine à 15 ans à peine de la Révolution.
Oui, mais les philosophes représentent qu'une pellicule, le peuple reste royaliste, le peuple reste religieux, les curés de campagne ont toujours de l'influence sur leurs ouailles, ils ont tenu le coup pendant la Révolution, y a toute une... et la Révolution, elle a changé quoi? 15% de la société. Les raz-de-marée en histoire sociale sont un petit peu comme les vagues de la mer sur la plage, c'est-à-dire que ça fait beaucoup d'effets. Mais c'est pas toujours profond. En ce qui concerne le règne de Louis XV, les éléments solides, les éléments durables, ne sont pas assez repérés, célébrés en quelque sorte par l'historiographie. Mais il y a peut-être encore 900 lois en France qui datent de l'Ancien Régime.
Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que Louis XV, d'une certaine manière, est responsable un peu de la Révolution qui s'annonce, qu'il va léguer en quelque sorte à son petit-fils, Louis XVI?
J'aurais presque dit qu'il était un des fossoyeurs de l'ancienne monarchie.
Bien, en tout cas, merci François Bluche de nous avoir rappelé un peu en très peu de temps un très long règne, 59 ans du règne de Louis XV, ce que vous faites aussi donc dans ce livre qui vient d'être publié chez Perrin, Louis XV, et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui sort chez Hachette, Le despotisme éclairé. À lire également aux éditions Perrin, qui sortent en ce moment de très nombreuses biographies précisément sur cette époque, Le cardinal Dubois, qui était conseiller du régent, de Guy Chaussinant Nogaret, Le cardinal de Bernice, ministre des Affaires étrangères de Louis XV, une biographie donc de Jean-Paul Desprats, toujours chez Perrin, et enfin L'histoire de France de Georges Duby, ça je la cite toujours parce qu'elle est merveilleuse, en 3 volumes publiés chez Larousse avec un long chapitre consacré à Louis XV. Et puis pour les enfants, La France de Louis XV et Louis XVI dans la collection Bonjour l'Histoire chez PEMF. Vous avez pu entendre des extraits du film Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, disponible en vidéo chez René Château Vidéo, ainsi que L'Allée du Roi de Nina Campanese avec Didier Sandre, un film disponible en cassette chez Warner Vidéo. Vous pouvez écouter notre émission, vous le savez, tous les jours pendant une semaine sur le site internet franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives et les références bibliographiques. Et puis vous pouvez retrouver également tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2,21 francs la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Frédéric Quérault et Elisabeth Collet, documentation Elsa Boublil et Vanina Scalia, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.